Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de français de KBS World Radio. Le journal de ce lundi 22 mai sera principalement consacré au week-end diplomatique de Yoon Suk-yeol.
La délégation sud-coréenne lance aujourd'hui ses activités officielles à Fukushima. Yoon et Kishida rendent hommage aux victimes coréennes de la bombe atomique à Hiroshima. Biden invite Yoon et Kishida à Washington. Et enfin, le Festival des Lanternes a rassemblé environ 50 000 personnes.
La délégation sud-coréenne a entamé aujourd'hui ses activités d'inspection officielle au Japon des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. L'équipe composée de 21 techniciens a tenu aujourd'hui une réunion technique avec la compagnie japonaise d'électricité TEPCO, le ministère nippon de l'économie, du commerce et de l'industrie et l'autorité de réglementation du nucléaire de l'archipel. Les experts sud-coréens vérifieront la gestion des eaux polluées de la centrale en question pendant les deux prochains jour. Le premier jour, ils étudieront notamment le système avancé de traitement des liquides, ALPS, et le réservoir que les eaux contaminées traverseront avant d'être rejetées dans l'océan. Le deuxième, ils examineront les équipements et les procédures d'analyse de nucléides. Avant son retour prévu vendredi, elle organisera la veille de son départ une réunion technique approfondie basée sur son inspection sur place. À la question de savoir si 6 jours sont trop courts pour mener à bien une inspection, le patron de la Commission de la sécurité et de la sûreté nucléaire de Corée, NSSC, a répondu dès son arrivée hier à l'aéroport international de Narita que Séoul avait déjà reçu diverses données depuis août 2021 et en demanderait encore si nécessaire. Il a déclaré également que sa délégation effectuerait une inspection selon ses critères scientifiques et qu'elle poserait des questions si des conditions n'y correspondaient pas. Le chef de l'équipe a souligné que l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA avait déjà prélevé des échantillons dans les eaux contaminées à 3 reprises et qu'une analyse était aussi en cours du côté sud-coréen.
Le sommet du G7 s'est déroulé du 19 au 21 mai à Hiroshima. Ce dernier réunit non seulement les leaders des 7 pays membres qui partagent des valeurs fondamentales telles que la liberté, la démocratie, les droits de l'homme, mais aussi ceux de plusieurs autres nations invitées par le Japon, dont la Corée du Sud. Le déplacement du président sud-coréen sur l'archipel a permis non seulement la tenue d'un nouveau sommet Séoul-Tokyo en 2 semaines, mais également une visite inédite. Yoon Suk-yeol s'est rendu tôt dimanche matin au parc du mémorial de la paix d'Hiroshima avec le premier ministre japonais Fumio Kishida. En déposant des bouquets de fleurs blanches, les deux hommes ont rendu hommage aux victimes coréennes de la bombe atomique devant le cénotaphe érigé à leur mémoire. Notons qu'il s'agit de la première visite d'un chef de l'État sud-coréen sur ce lieu symbolique et c'est aussi la première fois que les dirigeants des deux pays effectuent un déplacement ensemble. Selon les estimations, environ 50 000 Coréens mobilisés sur l'archipel durant l'occupation japonaise semblent avoir été victimes du bombardement atomique du 6 août 1945 et 30 000 parmi eux ont perdu la vie. Les survivants du drame ainsi que leurs descendants ont assisté à ce moment historique. Le président Yoon a jugé lors du sommet bilatéral Séoul-Tokyo qui a eu lieu un peu plus tard que cette visite conjointe avait permis de commémorer les victimes coréennes de la bombe A et restera dans les mémoires comme un acte courageux du premier ministre nippon pour préparer un avenir pacifique. Son interlocuteur a pour sa part déclaré que cela était important non seulement pour les relations bilatérales mais également pour la paix mondiale.
Un sommet Séoul-Washington-Tokyo s'est tenu dimanche après-midi à Hiroshima en marge du rassemblement du G7. Nous en savons un peu plus sur ce que Yoon Suk-yeol a échangé avec Joe Biden et Fumio Kishida, en plus des informations rapportées hier par les médias étrangers. Selon l'agence de presse Reuters, le président américain a invité son homologue sud-coréen et le premier ministre japonais à Washington. Les trois dirigeants réunis 6 mois après le sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est ASEAN à Phnom Penh se sont accordés pour porter à un niveau plus élevé la coopération trilatérale. Leur intention, élargir l'étendue de la coopération jusqu'aux chaînes d'approvisionnement et à d'autres questions internationales. Concernant le renforcement de la force dissuasion nucléaire vis-à-vis de Pyongyang, ils ont décidé de concrétiser les moyens de collaboration, dont le partage d'informations sur les alertes aux missiles. Yoon, Biden et Kishida ont aussi parlé d'une entente pour un ordre international libre libre et ouvert, basé sur les principes de l'état de droit, ce qui pourrait être interprété comme une volonté de contrôler la Chine et la Russie. Si une réunion trilatérale est organisée dans la capitale américaine, comme l'a rapporté Reuters et d'autres médias étrangers, elle représentera un autre avancement de la coopération Séoul-Washington-Tokyo.
Le chef de l'État sud-coréen s'est également entretenu dimanche avec son homologue ukrainien à Hiroshima. C'est la première fois que Yoon Suk-yeol et Volodymyr Zelensky se sont rencontrés en face à face et c'est à la demande de l'Ukraine que ce tête-à-tête a été organisé. On en sait un peu plus sur le contenu de leur discussion. À cette occasion, le président sud-coréen a réaffirmé la volonté de la Corée du Sud de soutenir davantage l'Ukraine, tout en limitant, selon le bureau présidentiel de Yongsan, son assistance dans les domaines de la diplomatie, de l'économie et des aides humanitaires. La participation des entreprises sud-coréennes à la reconstruction du pays ravagé par l'invasion russe a aussi été à l'ordre du jour. Ces deux sujets ont été, rappelons-le, évoqués lors du déplacement la semaine dernière de la première dame ukrainienne dans la capitale sud-coréenne. Via ses réseaux sociaux, le président Zelensky a pour sa part remercié le soutien de Séoul envers Kiev, notamment pour son aide humanitaire et l'envoi d'équipements militaires non létaux, dont ceux de déminage. Les deux côtés ont expliqué qu'aucune discussion sur une assistance d'armes létales n'avait eu lieu lors de ce sommet de 30 minutes au Japon, mais que si le conflit dure, la situation pourrait changer.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Au chapitre politique nationale, la majorité et l'opposition sont tombés d'accord sur la loi spéciale sur le soutien aux victimes des fraudes au Tonsei. Il s'agit d'un système de location propre à la Corée du Sud, basé sur un gros dépôt de garantie. Selon le texte, les personnes souscrivant ce contrat, dont la caution s'élève jusqu'à 500 millions de won, soit 350 000 euros, peuvent bénéficier de l'assistance gouvernementale. Dans le cas où les victimes n'ont pas le droit prioritaire sur la caution lors de la mise aux enchères de leurs appartements, celles-ci pourront faire un crédit sans intérêt pour ce montant pendant 10 ans au maximum. Les partis de l'opposition ont proposé que les autorités publiques dédommagent en premier les dégâts et récupèrent le montant plus tard lors de la vente des logements. Mais cet argument n'a finalement pas été accepté. À la place, la Korea Housing and Urban Guarantee Corporation soutiendra le processus d'achat des victimes d'un logement aux enchères à un coût plus réduit. L'Assemblée nationale compte faire entériner cette proposition de loi mercredi lors de la commission de l'aménagement du territoire et des transports pour la déposer en session plénière le lendemain.
La commission parlementaire spéciale sur la réforme politique a adopté ce matin le projet de loi visant à intégrer les cryptoactifs dans la liste de la déclaration des patrimoines des députés dans son sous-comité. L'objectif est d'empêcher les parlementaires de mener des activités législatives en faveur de leur intérêt personnel. Une clause d'exception impose cette nouvelle mesure aux membres actuels de la 21e législature de l'Assemblée nationale d'ici le mois prochain. Le comité consultatif de l'examen éthique passera au crible ces données et publiera d'ici la fin juillet son avis sur l'éventuel conflit d'intérêts dans les activités législatives connexes. Ce projet de révision a vu le jour alors que le député Kim Nam-kuk, soupçonné de posséder une somme astronomique de monnaie virtuelle, tente de légiférer sur le report de l'imposition sur les actifs numériques. La commission prévoit de faire entériner le texte jeudi prochain en session plénière.
Les exportations lors des 20 premiers jours de mai ont dégringolé de 16,1% par rapport à la même période de l'an dernier et la balance commerciale a affiché un déficit de 4,3 milliards de dollars. Selon le service des douanes, le montant des exportations du 1er au 20 mai s'est établi à 32,44 milliards de dollars. La moyenne journalière du volume des expéditions a reculé de 13,2%. Le chiffre a poursuivi sa tendance baissière d'octobre à avril pour le 7e mois d'affilée et devrait continuer à reculer pour le reste du mois de mai. Par article, les ventes de voitures ont bondi de 54,7%, mais celles de semi-conducteurs ont chuté de 35,5%. Les produits pétroliers et les appareils de communication sans fil ont moins été écoulés à l'étranger. Les exportations vers la Chine, le plus gros partenaire commercial du pays du matériel, Martin Clair et les États-Unis ont baissé respectivement de 23,4 et de 2. Du côté des importations, elles se sont élevées à 36,75 milliards de dollars sur cette même période, soit une diminution de 15,3% en glissement annuel. Si la balance commerciale sud-coréenne s'affiche encore dans le rouge fin mai, il s'agira d'un déficit pour le 15e mois consécutif. Le pays a accumulé cette année jusqu'au 20 mai 29,55 milliards de dollars de pertes. Le vice-premier ministre à l'économie Choi Kyung-ho a prévu toutefois ce matin, lors d'une réunion plénière de la commission de la stratégie et des finances du Parlement, que le chiffre s'améliorait considérablement au 12e semestre et notamment lors du dernier trimestre.
Et pour terminer, le festival des lanternes en forme de lotus appelé Yeondonghae s'est déroulé samedi dernier. Il s'agissait de la première édition de grande envergure organisée depuis la levée du port du masque autrefois imposé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. L'événement s'est tenu en amont de l'anniversaire de Bouddha, le 8e jour du 4e mois selon le calendrier lunaire qui tombe cette année le 27 mai. Le comité de préservation des lanternes a estimé que la manifestation avait réuni une soixantaine d'organisations et environ 50 000 individus. L'édition 2023 du Yeondonghae a débuté à 16h30 sur le campus de l'université Dongguk. Le défilé de lanternes s'est poursuivi jusqu'au temple Jogye en passant par la porte est Ungminjimun et Jongno. Le lendemain de midi à 18h, plusieurs événements tels que des cours de dessin, de motifs traditionnels et des dégustations de plats de temple ont été organisés devant le temple Jogye. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kim Hong-ju et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bon début de semaine sur KBS World Radio.